Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. C'est la dernière de la saison. Imanol aurait pu sortir le smoking pour fêter dignement cette dernière. Salut Imanol, notre légende à nous qui est là comme chaque semaine.
Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien.
Lui, il est avec nous malgré l'heure tardive au Japon, Marc Duzan. Marc, tu es là-bas pour le Midi Olympique, tu suis la tournée des Bleus. Je crois que tu as un petit peu chaud d'ailleurs, non?
Ouais, 35 degrés à l'ombre, 80% d'humidité, tu fais deux pas dans la rue, t'as la peau qui colle. C'est très désagréable, je le conseille à personne.
Tu nous parles de tout ça dans quelques instants. À tes côtés, on retrouve quelqu'un qui n'est pas à l'autre bout de la planète, il est à l'autre bout du périph.
Hein, c'est ça.
Arnaud Beurdelet.
Salut à tous.
Bon, allez, messieurs, nous allons parler de cette tournée du 15 de France au Japon. Marc, tu nous donneras les dernières infos. On va analyser, évidemment, la composition pour ce premier test. Samedi, une équipe expérimentale et puis avec des petits nouveaux. On en parle dans quelques instants. On s'intéressera également au cas de Montpellier. Le MHR est un beau champion. Mais maintenant, après ce premier bouclier, quelle est la suite? Est-ce que l'avenir appartient au club de Moed Altrad? Voilà pour les deux principales parties de cet arrêt buffet. Mais on va attaquer d'abord sur cette grosse info transfert qui vient tout juste de tomber grâce au middle d'ailleurs. Arrêt buffet, c'est parti. Messieurs, je voudrais donc d'abord pour commencer avoir votre réaction suite à cette info du Midi Olympique sortie ce jeudi matin. Le troisième ligne international Cameron Wauki quitterait Bordeaux et s'engagerait avec le Racing dès la saison prochaine, alors qu'il lui reste encore un an de contrat. C'est une information qui n'a pas encore été confirmée par le Racing. En tout cas, c'est un très très gros coup de la part du club de Jackie Lorenzetti. Marc, Arnaud, je vous donne d'abord la parole parce que c'est une info middle. Hein.
Oui, c'est une info qu'on a vérifiée après plusieurs interrogations, en tout cas plusieurs sources qui nous avaient parlé de ce sujet-là. On savait que le Racing s'était positionné, d'autres clubs, hein, le Stade français également s'était positionné sur Cameron Wauki, mais l'élément qui manquait à cette information, c'était à quel moment Cameron Wauki allait quitter Bordeaux, si toutefois il quittait Bordeaux. Donc il a effectivement pris la décision de quitter Bordeaux, il lui restait un an de contrat, et finalement, il semble qu'il y ait, non pas une rupture, mais en tout cas, il avait fait part de ses envies d'ailleurs, à son président, il l'a confirmé puisque effectivement il n'effectuera pas probablement ça. Enfin, c'est même quasiment acquis puisque l'information est confirmée par des sources proches du club. Il ne fera pas sa dernière année de contrat avec l'UBB. Il s'engage donc dès le 1er juillet, ces jours-ci, avec le Racing. Et évidemment, le Racing 92 va devoir s'acquitter d'une somme que je qualifierais de coquette. Auprès de l'UBB.
Emmanuel, ça te surprend ça, ce choix?
Le choix en lui-même, oui. Maintenant qu'un joueur ait envie de changer d'air, surtout s'il se sent pas bien et qu'il pense que ça va nuire à son évolution sportive, je pense que c'est ni dans son intérêt, ni dans l'intérêt du club non plus de le conserver. Hein. À partir du moment, je pense de toute façon, où un joueur émet la volonté de partir, ou quand Cameron Wauki a dit qu'il allait peut-être partir, c'est que déjà dans sa tête, c'était acté. Donc, je pense que pour le club, non plus, ce n'est pas productif de garder un joueur comme ça qui se projette pas. Maintenant, sachant la montée en puissance de l'UBB, même si la saison n'a pas toujours été régulière, c'est un club quand même qui joue la Coupe d'Europe, qui se positionne pour prétendre au titre aussi de champion de France. C'était quand même un des papas du vestiaire, un leader avec d'autres joueurs de cette équipe. Donc, moi, je trouve un peu surprenant, oui, parce que la saison du Racing n'a pas été plus flamboyante, et les précédentes non plus du Racing n'ont pas été plus flamboyantes que celles de l'UBB. Donc, je pense qu'il y avait un désaccord, peut-être notamment... Avec le manager, donc qu'on a vu hein, d'ailleurs sur le dernier match aussi, où Cameron Wauki est sorti assez tôt. Et quand on est un joueur comme ça avec de l'ego, et ce qui est normal, et qu'on évolue à un certain niveau, c'est des choses qui peuvent faire pencher la balance, ou en tout cas forcer un choix. Donc je pense que ce sera lui le mieux placé pour pouvoir répondre à cette question, mais de l'extérieur, sans connaître les causes, Moi, je trouve que c'est un choix assez surprenant, oui.
C'est pas pour défendre Cameron Wauki, que Cameron Wauki est originaire de la région parisienne. Il a grandi, il a été formé à Bobigny, puis à Massy. Par ailleurs, on peut parler aussi probablement de rapprochement familial, puisque sa compagne vit en région parisienne. Donc voilà, ça, c'est aussi un paramètre probablement qui a pesé assez fort dans le choix de Cameron Wauki. Et puis bon, oui, il part au Racing qui cette année a pas brillé. Là, je parle sous la responsabilité de Marc qui suit au quotidien cette équipe. Mais bon, c'est reste quand même un club extrêmement ambitieux, à fort potentiel, avec de gros moyens. Ne négligeons pas non plus l'aspect financier. Je connais peu de joueurs qui refusent des propositions émises par le président Lorenzetti.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le Racing avait vraiment besoin d'une troisième ligne ? Aujourd'hui, le Racing souffre en mêlée. Quoi. J'aurais plus vu un pilier droit qui débarque, parce qu'aujourd'hui, Gomez recule en mêlée, Niakane à 40 minutes dans les pattes. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'avec Diallo, Chouzou, Sankoli, tu étais quand même assez armé. Quoi. Donc,
est-ce qu'il ne va pas jouer deuxième ligne ? C'est sa volonté aussi aujourd'hui.
Ouais, mais Cameron Wauki, il n'est pas là pour te caler la mêlée. C'est la mêlée qui cloche au Racing aujourd'hui.
Non, mais il a un profil
pour jouer à l'Arena. En quart de finale. Hein.
Je sais pas, Emmanuel, il a un profil pour jouer à l'Arena quand même.
Je pense pas que c'était la priorité. Oui. Je rejoins Marco pour le Racing. Maintenant, je sais qu'au Racing aussi, ils cherchent quand même une identité. Ils veulent aussi à nouveau faire signer des noms pour faire peur un peu aux adversaires. Il y a cette volonté là de signer quand même voilà quelques grands noms et Cameron Wauki en fait partie. Maintenant la seule chose que je peux entendre c'est peut-être l'épanouissement du joueur, mais ça me gêne quand même qu'un jeune joueur comme ça qui s'épanouit, qui jouant en l'UBB en tout cas est en équipe de France, un titulaire indiscutable, ça me gêne qu'il aille pas à la fin de son contrat et voilà, mais bon, après, j'entends que si c'est pour son épanouissement, je peux comprendre qu'il prenne cette décision. Et l'aspect financier aussi n'est pas négligeable, bien entendu.
Ce recrutement, ça veut aussi dire que Jacky Lorenzetti s'impatiente un peu, quoi. Il y a 6 ans que le Racing n'a pas eu de titre. Il doit trouver le temps un peu long, l'ami Jacky, là. Et donc, Wauki arrive. On dit que Penaud devrait arriver à la fin de son contrat en 2023. Enfin, voilà, le Racing va recruter lourd. Pour décrocher quelque chose très rapidement, quoi, malgré les discours officiels.
Oui, si c'est un très beau coup pour le Racing, c'est un vrai coup dur en revanche pour l'UBB, autant sportivement que pour l'image du club également.
Ben, c'est sûr, quand on a des joueurs comme ça, des têtes d'affiche, avec Jalibert, c'est sûr que c'est une grosse perte pour l'UBB. Et en même temps, ça peut envoyer aussi un signal à d'autres joueurs qui auraient peut-être signé à l'UBB. Ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi un joueur comme ça quitte l'UBB. Donc, ça ne renforce pas l'attractivité, en tout cas, de l'UBB.
C'est un mauvais signal envoyé par l'UBB, évidemment, perdre Wauki. Je vous donne juste un exemple. Le Stade français s'est séparé de Gaël Ficou. Au-delà des résultats sportifs, aujourd'hui le Stade français peine à séduire des joueurs pour rejoindre l'effectif parisien. Et je crois que voilà, perdre Cameron Wauki, alors l'UBB n'est pas dans la situation entre guillemets ces dernières saisons. Au contraire, ils sont plutôt sur une phase ascendante et plutôt positive, contrairement au Stade français qui reste dans le ventre très très mou et flirte parfois même avec la lutte pour la relégation. Mais c'est jamais un bon signal quand une tête d'affiche d'un club. Imaginons demain que Antoine Dupont décide de quitter le Stade toulousain. Forcément, ça incite moins d'autres joueurs à venir rejoindre le Stade toulousain.
Et pour terminer sur une touche un peu plus humaine, on sait que Mathieu Jalibert et Cameron Wauki sont très très potes. Je me demande si leur amitié va pas souffrir de ce départ. Est-ce que Mathieu Jalibert va pas se sentir abandonné et seul à bord à l'Union Bordeaux-Bègles maintenant ? C'est ce dont j'ai peur.
Bah écoute, tu sais quoi, Marc, tu poseras la question à Mathieu Jalibert, puisque toi, tu es au Japon. Et Mathieu Jalibert, il est titulaire avec l'équipe de France pour le test face au Japon prévu samedi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grosse info sortie par Midi Olympique ce jeudi matin, le transfert de Cameron Wauki de l'UBB au Racing. Et nous, on va donc parler maintenant, puisqu'on a la chance d'avoir un envoyé spécial au Japon avec Marc, on va parler maintenant de l'équipe de France et de cette tournée au Japon. Ici, dans Arrêt Buffet, on ne s'interdit rien puisque nous avons carrément un envoyé spécial au Japon. C'est Marc Duzan du Midi Olympique. Marc, tu suis l'équipe de France dans cette tournée au Japon. Alors déjà, où es-tu exactement là ?
Voilà, au moment où je te parle, Olivier, je suis à Tokyo et je pars demain à Toyota City où les Bleus affronteront donc le Japon samedi après-midi, 15h30.
Alors raconte-nous, quelle est l'ambiance là-bas ? Déjà, dans l'intro, on a rapidement parlé de la chaleur étouffante. Ce sera le cas aussi samedi, j'imagine, pour le match.
Ouais, ce sera pire à Toyota puisqu'à Tokyo, là, on est quand même à côté de la mer. Donc, on sent les alizés et le vent qui fait beaucoup de bien. Quoi. Toyota City, tu es dans l'intérieur des terres. Donc, je discutais avec un journaliste japonais cet après-midi qui me dit qu'on attend des températures à 36 degrés. Quoi, et toujours avec cette humidité terrifiante. Quoi. Donc, ils en ont d'ailleurs beaucoup souffert, les Bleus. Fabien Galthié disait tout à l'heure qu'un joueur, pendant une séance d'entraînement d'une heure, il perd entre 3 et 4 litres d'eau. Quoi. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Il termine dans des états terribles. Quoi.
Ça fait quoi, Emmanuel, de jouer dans ces conditions-là, d'ailleurs ?
Honnêtement, c'est assez épouvantable. Là. J'ai eu la chance de jouer, moi, à Hong Kong, un peu dans des conditions similaires contre les Lions britanniques, avec les Barbarians britanniques, d'ailleurs. Et c'est la première fois que je voyais des brumisateurs au bord du terrain où, à chaque pause, tous les joueurs allaient sur le brumisateur parce qu'il faisait une chaleur. On était obligés de s'entraîner très tôt le matin parce que c'était intenable. Et surtout, l'humidité, c'est horrible parce que, comme disait Marco, voilà, tu perds énormément d'eau. Donc, au niveau énergétique, quand même, c'est fatigant, c'est usant. Bon, heureusement, Marco, il y a la clim quand même dans ta chambre. Rassure-nous, ouais, Marco, tu vas pas perdre trop de kilos, Marco.
Il y a un truc dont on ne parle pas, c'est justement l'effet de la transpiration et de l'humidité sur le ballon et qui a des répercussions assez catastrophiques sur le spectacle produit. Tu vois. On se souvient qu'en 2019, la phase régulière de la Coupe du Monde, la phase de poule, avait été d'un niveau plutôt médiocre à cause justement de ces ballons perdus au contact parce que les balles deviennent de vraies savonnettes. Quoi. D'ailleurs, les Bleus se sont entraînés avec, ils mettent de la résine sur le ballon et ils mettent aussi des sprays de colle pour que ça colle davantage.
Voilà. Bon, on parle de cette composition. Tu as assisté à la conférence de presse, évidemment, donc de Fabien Galthié, de son staff, et de l'annonce de cette composition pour le test samedi face au Japon. Que retenir ? Alors, Charles Olivon, ça c'était attendu, est le capitaine de cette équipe. La charnière, ça aussi, c'était attendu avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Il y aura de nouveau dans cette équipe expérimentale avec Thomas Jolmes en deuxième ligne et Yoad Tonga en troisième ligne. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette composition ? Vas-y, Marc, toi qui es là-bas, qu'est-ce qui en ressort, le discours général autour de cette composition ?
Écoute, le staff a essayé de sélectionner des joueurs beaucoup moins denses qu'à l'accoutumée, quoi, justement pour répondre à cette chaleur et pour répondre au plan de jeu des Japonais, qui, c'est ce qu'a dit Jamie Joseph, le sélectionneur japonais cet après-midi, ils vont attaquer et encore attaquer et déplacer les Bleus pendant 80 minutes. Donc pour répondre à ça, il faut des joueurs affûtés, plutôt légers. Et Tanga, Jolmes, ça correspond à cette volonté. Quoi. Des mecs comme Antonio, Tao Fifinoua, Ilemze, ils auraient explosé en plein vol. Quoi. Le problème, Thomas Jolmes, quel visage il a présenté ? Celui séduisant du début de saison avec Bordeaux ou celui nonchalant, désinvolte, qui présentait sur la fin d'aventure à Toulon ou à La Rochelle quoi. C'est la grande inconnue. Quoi. Est-ce qu'il est plutôt aussi léger pour un numéro 5 ? Est-ce qu'il va tenir en mêlée ? Enfin, il y a beaucoup d'interrogations autour de Thomas Jolmes.
Je fais un point. J'annonce la compo quand même, puisque je ne l'ai pas dit. Bon, je rappelle qu'il manque l'essentiel des cadres. Ça, on en avait beaucoup parlé avant le départ des Bleus. Donc, c'est Gros, Movaka, Bamba en première ligne. Flamand, Jolmes en deuxième ligne. Olivon, Tanga, Cretin en troisième ligne. Puis Lucu, Jalibert. Lebel, Moefana, Vakatawa au centre. Penaud à l'aile et puis Jaminet à l'arrière. Emmanuel, toi, cette équipe, t'en penses quoi ?
Mais écoute, je me pose des questions parce que oui, il y a une équipe avec des profils quand même de coureurs, notamment devant. Alors on sait que les Japonais ne sont pas hyper denses. Maintenant, on sait que les Japonais basent quand même beaucoup leur rugby sur la vitesse, notamment les sorties de balles. Ils ont des joueurs quand même assez explosifs et vifs. Et quand je vois la composition de l'équipe de France, je vois pas des profils de gros gratteurs, des joueurs qui vont aller, qui ont cette capacité à ralentir énormément les sorties de balles adverses, même si on sait que sur l'état d'esprit, l'équipe de France l'a affiché, quels que soient les joueurs qui étaient alignés. Donc, je crois qu'il y aura un gros travail là-dessus parce que le match risque de se jouer là-dessus. Et éventuellement, pourquoi ne pas avoir optionné aussi pour un joueur un peu plus perforant, voilà, qui aurait été capable de créer quelques brèches dans la défense japonaise, même si au centre quand même de l'équipe des Français, ça va être très solide avec Vakatawa et Moefana. Voilà, on connaît aussi les qualités de Pono qui est capable de traverser le terrain à tout moment. Voilà, je pense que devant, il y a quand même. On est un peu au stade expérimental, voir un peu comment ça va fonctionner, notamment avec ces deux deuxièmes lignes, voilà, Flamand et Jolmes, et Tanga en numéro 8. Sinon, voilà, on a un 5 de devant qui est plutôt aérien. Hein, donc, j'espère que cette option-là qui a été choisie sera la bonne, bien que les conditions climatiques, c'est important de le rappeler, seront quand même chaudes et à ce jeu. Quand on est grand et lourd et qu'il fait chaud, c'est compliqué. Ça, le temps pour les gros, comme on dit.
Il y a une donnée qu'on prend jamais en compte concernant le Japon. Tu vois, j'en discutais hier soir avec Peato Movaka. Il me disait que lui, il les a joués deux fois, les Japonais, avec les moins de 20 tricolores. Il me disait qu'ils sont vraiment très, très forts en mêlée, qu'ils sont soudés comme des Legos. C'est son expression. Ils sont très, très bien soudés. Et ils se mettent très, très bas. Ils peuvent rester très bas en mêlée et très longtemps. Et pour des grands gabarits comme lui, Movaka, il fait 1,86. C'est très difficile de survivre à ce genre d'épreuve. Et avec les moins de 20 ans tricolores, ils avaient mis 20 minutes à s'adapter à cette poussée japonaise. Et là, ils ont peur de se faire un peu chier en mêlée fermée. Ouais.
Mais moi, je rejoins Emmanuel. Pourquoi répondre à la capacité de déplacement et cette volonté de mouvement des Japonais par justement cette même typologie de jeu? Pourquoi ne pas justement avoir densifié un peu plus le paquet d'avant? Moi, j'aurais aimé voir un garçon comme Rémi Piquet, hein, qui s'est révélé en Pro D2, qu'on avait la chance de suivre à l'époque sur Eurosport lorsqu'il évoluait à Vannes. On voit qu'il a pris une dimension à La Rochelle quand même qui est vraiment intéressante. J'aurais aimé le voir, mais bon, visiblement, justement, il n'a pas, aux yeux du sélectionneur, cette capacité de déplacement suffisante. Moi, je le regrette, effectivement, je rejoins Emmanuel sur le fait qu'on n'a pas de profil de joueur gratteur. Effectivement, les Japonais ont cette faculté à rester très, très, très peu de temps dans les zones de combat au sol, dans les zones de ruck. Et j'ai peur que si eux parviennent à mettre du mouvement très vite, en début de match, qu'on souffre parce que ces joueurs-là sont acclimatés finalement à l'environnement météorologique japonais, quand les joueurs français, eux, en sont encore qu'à la phase de découverte. Donc, les 20 premières minutes, j'ai peur qu'ils imposent un gros, gros rythme. Et ouais, j'aurais aimé voir un peu plus de tonnage pour éventuellement au moins leur confisquer le ballon.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui seront plus particulièrement attendus par le staff, particulièrement scrutés? Moi, je pense à la charnière, évidemment, la charnière de l'UBB, Lucu Jalibert, qui joue pas gros, mais qui doit faire bonne impression, puisqu'ils vivent habituellement dans l'ombre de Ntamack et Dupont.
Non, mais ils jouent pas gros. On sait qu'ils resteront dans l'ombre. Hein. Même s'ils traversent 25 fois le terrain, on va pas se mentir. Quand vous avez Dupont et Ntamack, je sais pas ce qu'en pense Manol. Mais je pense que la hiérarchie, elle est claire, nette et précise.
Ben, oui, je vais être dur. C'est que pour eux, le strict minimum, ça va être d'assurer ce qu'ils ont déjà fait parce qu'on compte sur eux pour ça. Ils n'ont pas de place à proprement dit à gagner, je ne crois pas. Et dans le pire des cas, ils peuvent perdre des points. Mais bon, c'est peut-être un peu la tournée casse-gueule pour eux. Voilà, parce qu'il faut... Il faut qu'ils soient au niveau en tant que leader, c'est ce qu'on va attendre d'eux, mais aussi en tant que joueur. Donc ça va leur mettre une certaine pression, hein, voilà. Tout comme le retour de Charles Olivon aussi en troisième ligne, qui va d'abord devoir montrer qu'il a retrouvé le niveau d'un joueur expérimenté et tout son côté athlétique.
Mais Emmanuel a raison, hein. Celui qui joue gros sur cette tournée, c'est Charles Olivon, on va pas se mentir. Tout le monde s'est enthousiasmé et s'est enflammé sur le capitanat d'Antoine Dupont. Dupont qui est élu meilleur joueur du monde, qui traverse le terrain 9 fois sur 10. On a vu qu'il pouvait avoir des petites baisses de régime sur la demi-finale avec le Stade Toulousain. Mais voilà, beaucoup de gens ont parié que Antoine Dupont conserverait le capitanat quand bien même Charles Olivon reviendrait à son meilleur niveau. Fabien Galthié, si effectivement Charles Olivon revient à son meilleur niveau, il va avoir une entorse du cerveau, parce que là, pour le coup, il va falloir qu'il fasse un choix fort. Est-ce que oui ou non, il conserve toute sa confiance à Charles Olivon? Est-ce qu'il le remet comme simple soldat en troisième ligne? Parce qu'on rappelle aussi simplement qu'en troisième ligne, il y a du monde. C'est pas à Imanol que je vais apprendre que avoir sa place aujourd'hui quand il y a des garçons comme Cross, comme Aldrit, enfin voilà, ils sont une tripotée quand même en troisième ligne. Donc d'abord que Charles Olivon s'occupe de retrouver sa place au milieu de cette troisième ligne, et ensuite la question du capitanat se posera. Son leadership, il l'a au sein de l'équipe de France. Il est respecté, reconnu. Dès qu'il a été nommé par Galtier, il a fait le boulot, il a fait le job. La question, c'est de savoir, est-ce que oui ou non, il est un titulaire indiscutable de la troisième ligne. Et ça, on aura peut-être quelques éléments de réponse sur cette tournée, mais on en aura encore davantage lors de la prochaine tournée au mois de novembre.
C'est un sujet tabou chez Galtier, d'ailleurs, la question du capitanat. Quand tu lui poses la question, il botte toujours en touche, parce qu'il sait que tôt ou tard, il devra se déjuger. Il avait commencé son aventure avec Charles Olivon, mais il se rend compte qu'aujourd'hui, avec le capitaine et meilleur joueur du monde, tu as le meilleur ambassadeur pour ta Coupe du Monde 2023 en France. Tu ne peux plus changer, c'est pas possible, les gens ne comprendraient pas, quoi. Donc je pense qu'il est vraiment très emmerdé avec ça.
Ouais, c'est sûr que ça.
Moi, je suis pas d'accord avec Marco. Moi, je pense qu'il peut conserver Olivon. Au contraire, ce serait une marque de fidélité. Non, moi, je suis pas d'accord.
Il faudrait qu'il soit titulaire.
Je sais pas
déjà.
Ce qu'il adviendra. Je sais pas ce que Galtier va faire.
Ouais, sans
parler. Mais voilà. S'il revient à son meilleur niveau, il peut.
Sans parler du capitana, je vois mal comment Fabien Galtier pourrait se passer de Charles Olivon. S'il retrouve son meilleur niveau, je pense qu'il a retrouvé. Je l'ai suivi sur beaucoup de matchs de Toulon. Je pense qu'il va monter en puissance. Cette coupure lui a permis vraiment de travailler physiquement. Il est assez impressionnant. Et il a un profil que les autres n'ont pas. Donc je vois mal comment il pourrait se passer de Charles Olivon en équipe de France.
De manière plus générale, Marc, toi qui côtoies les Bleus, le staff, vous n'êtes pas très nombreux, hein, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Comment est l'ambiance? Comment tu les trouves? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce que c'est extrêmement détendu? Comment sont les joueurs? Est-ce qu'un Charles Olivon, par exemple, il est tendu parce qu'il sait qu'il joue gros quand même dans cette tournée? Charles Olivon,
on l'a pas trop croisé en fait en conférence de presse pour le moment. Les joueurs, écoute, ouais, comme à l'habitude, ça roule, quoi, comme ça roule à Marcoussis, c'est comme on dit, c'est un groupe qui vit bien, ils sont jeunes, ils sont pour la plupart contents d'être là, hein, parce que pour des mecs comme Mathias Sadan, Max Spring, Nolan Le Garec, c'est une chance d'être là, même si ça veut très bien qu'ils vont quitter le Japon sans sélection, probablement, tous ces mecs-là. Hein, mais ils croquent le truc, ils vivent le truc. Tu vois, ce matin, on a visité une salle de judo, ils ont été initiés au judo, à la culture japonaise, et ils avaient l'air heureux, quoi, comme le sont des mômes, quoi, donc... Ouais, pour l'instant, ça vit bien. Si ça perd contre le Japon samedi, ça va peut-être l'orage va peut-être arriver.
Juste une petite question à Emmanuel. Là, tu dis que si Olivon revient à son meilleur niveau, il sera indiscutable. T'enlèves qui? Cross, Aldrit, Gélon, je t'enlève qui?
Alors, je ne vais pas te dire aujourd'hui ma composition rêvée en troisième ligne, mais, quand il y a Gélon, Aldrit... Et Cross, moi je trouve que Gélon et Aldrit, ils sont un peu dans le même profil quand même. Donc je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un joueur comme Olivon quand même, qui a une capacité à se déplacer, une accélération quand même qui est bien plus franche que les autres. C'est un joueur qui est capable de marquer, de percer plein champ, ce que les autres n'ont pas pour moi. Il est capable aussi, au niveau aérien quand même, d'amener une vraie plus-value, même si on a vu que Cretin, se débrouillait très bien, ou d'autres joueurs. Hockey en l'occurrence. Voilà. Après la question, ça va être aussi de savoir où est-ce qu'il veut mettre Hockey. Si Hockey reste en troisième ligne, du coup, là, ils ont un peu le même profil. Si Hockey est passé dans la cage, ça libère une place. Mais tu as raison, la concurrence est féroce. Mais moi, il me tarde de voir Charles un peu se libérer parce que. On a vu la troisième ligne, si ce n'est François Cross, assez peu jouer dans le contact des offloads. On a vu Aldrit le faire sur le dernier match face aux Anglais, d'ailleurs. Mais comme par hasard, ça débloque une situation. Il y a essai de Dupont. Mais je crois vraiment que celui qui a le plus la capacité à faire jouer dans le contact, c'est Charles. Il l'avait avant de se blesser à l'omoplate, il n'a pas encore retrouvé cet état de fait d'être libéré dans le jeu. Mais il a quand même, c'est un joueur qui a des très très bonnes mains et qui est capable d'amener ça. Et le haut niveau, c'est cette capacité à faire des passes dans le contact. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, c'est pour ces raisons-là, je pense que c'est un joueur qui doit revenir titulaire en équipe de France.
En te posant la question, Emmanuel.
Je l'avais pas préparé.
Non, mais en te posant la question, il y a aucun jugement. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, je préfère être à ma place qu'à celle de Galtier parce que le jour où il va devoir trancher, si tous ces joueurs-là sont à leur meilleur niveau, il va y avoir il a intérêt à avoir du Doliprane avec lui. Hein.
Ouais, bon, je pense qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien avoir ces mots de tête.
Ce genre de problème,
ouais. Je te l'accorde, mais il va falloir après se justifier.
Exact.
Avant de terminer sur cette partie sur l'équipe de France, quand même, Marc, moi je profite de ta présence là-bas, même s'il est un petit peu tard, tu as envie de te coucher très probablement, je sais que tu es fatigué.
Tu aurais pu nous mettre un joli bandeau japonais, Marco, quand même, pour la DER.
Moi j'avais une petite question pour toi. Comment ils sont accueillis, nos bleus, d'ailleurs, là-bas par les Japonais? Est-ce que tu sens un engouement, une effervescence autour de la venue des champions d'Europe?
Ben écoute, on attend guichet fermé à Toyota City ce week-end, c'est-à-dire 40 000 personnes. Chaque fois que les Bleus se déplacent, il y a environ 50 journalistes japonais, ce qui n'est pas anodin, ce qui arrive peut-être jamais, même dans le tour destination, tu vois. Donc oui, cette équipe de France, elle crée de l'engouement. Ils font des selfies, ils font des photos depuis qu'ils ont levé la quarantaine, puisque depuis 3 jours, ils sont tout à fait libres de leur mouvement, nos Bleus. Oui, il y a un vrai engouement de la part des Japonais et une vraie passion autour de rugby depuis le Mondial 2019, qui a vraiment semé la graine de la balle ovale dans ce pays, on le sent.
Mais il y a Toulouse qui est ville d'accueil là, pour les centres d'entraînement des Japonais. Et de sources sûres, je sais qu'il y a déjà 30 000 billets qui ont été vendus quand même aux Japonais pour la Coupe du Monde en France. Donc, il y a aussi une réelle attractivité par rapport à la France et notamment l'équipe de France, bien entendu.
Est-ce que les Bleus sont sortis manger des gaufres, Marco?
Écoute, hier soir, mercredi soir, je crois qu'ils avaient quartier libre. Mais je ne l'aurais pas collé au cul. Hein. Je les laisse vivre leur vie. Écoute, tu nous raconteras ça samedi soir.
Oui, tu as bien raison. Tu es allé vivre ta vie un peu. Tu as bien raison d'aller en profiter. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette équipe de France qui disputera donc son premier test. Ce sera samedi matin à 8h, heure française, évidemment. Allez, on va terminer. On va rendre hommage quand même au tout récent champion de France. Et oui, pour terminer, on était quand même obligé de saluer la performance des Montpelliérains, les Montpelliérains qui ont fêté dignement le premier bouclier de l'histoire du club. Je crois que ça, ils continuent de le fêter, hein, d'ailleurs, ce bouclier. Je crois que c'est pas encore terminé. Il va bien falloir que ça s'arrête quand même à un moment ou à un autre. D'ailleurs, tu la trouves comment, Emmanuel, cette nouvelle génération de bringueurs? Elle tient la route, hein, visiblement.
Ah oui, on a un champion de toute catégorie là avec Forletas. Là, il fait plaisir. En tout cas, il fait le buzz sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir qu'il y a certaines coutumes qui ne se perdent pas.
Vous étiez beaucoup plus sage, vous et les Galactiques, quand vous avez fêté les deux boucliers, non?
Écoute, non, la première fois là, on l'a fêté vraiment dignement et je crois qu'ils ont vraiment raison de le fêter parce que. C'est des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'on y revient et surtout on ne sait pas quand c'est qu'on pourra en gagner un autre si ça arrive. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de moi, mais je vois qu'ils le fêtent bien et qu'ils le fêtent longtemps. Ils ont bien raison.
Enzo, Enzo Forletta a quand même hérité du surnom de Cumulus, rapport à son physique imposant et à la quantité de liquide qu'il est capable de contenir dans son corps, visiblement.
Il va falloir qu'il s'arrête quand même, hein, bientôt.
Ils sont en Espagne, hein, pour ceux qui veulent quelques infos, ils continuent de fêter le titre en Espagne.
D'accord. Bon, on va pas revenir évidemment sur cette finale gagnée sans contestation contre Castres. Moi, j'avais envie de m'intéresser maintenant à la suite, puisque ça fait quand même 2 titres en 2 ans pour les Montpelliérains. Il y a eu le challenge et désormais le top 14. Est-ce qu'avec ce titre de champion de France, Montpellier a changé de dimension, selon vous?
Ah, bien sûr. C'est une réelle montée en puissance après leur titre en challenge européen, qui n'est pas un titre majeur, mais qui compte quand même dans l'histoire d'un club et surtout par rapport au groupe. Et ils ont su aller se chercher ce titre quand même, ce bouclier tant convoité et si dur aujourd'hui à glaner que voilà. Et l'année prochaine, je pense qu'on va parler beaucoup plus de Montpellier. Et ils vont avoir un autre statut, ils vont faire peur, ils vont être aussi plus attendus. Donc, voir comment ils vont gérer un peu tout ça. Mais ils ont quand même un groupe étoffé avec aussi de jeunes joueurs à qui ce titre va donner de la confiance. Ils vont peut-être se sentir plus légitimes aussi. Donc, maintenant, il va falloir aussi assumer ce nouveau statut parce qu'ils vont être plus attendus. Et même si on dit que le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Le plus dur, c'est quand même d'y arriver. Donc, félicitations à Montpellier. Maintenant, voilà, après une année comme ça, et surtout la dernière finale, il y a plus de, je sais pas, j'ai pas la date, mais qui avait été perdue par les Montpelliérains, c'est il y a plus de 10 ans. Donc, ils savent que c'est pas facile d'arriver en finale. Donc, maintenant, la vraie question, c'est de savoir. Quand c'est qu'ils atteindront de nouveau ce niveau de performance, et ça va être
ils le avaient plus perdu. Dur. Ils avaient perdu en 2018.
2018 et 2011, les deux finales perdues.
Ah, je l'avais pas en 2018, désolé. Mm. Ouais, donc voilà, ouais. C'est quand même pas tous les jours.
Ouais. Mais cette équipe, donc la question, c'est voilà, est-ce que cette équipe n'a pas tout pour s'installer désormais durablement au sommet?
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce club qui n'avait pas d'identité, ou alors une identité, un peu floue, il s'en est créé une cette année, quoi, en relançant des mecs de caractère, des mal-aimés, comme Bastien Chalureau, tu vois, qui avait été viré de Toulouse après le fait divers qu'on connaît, comme Guillaume Guirado et Philippe Saint-André qui incarnaient la France qui perd, comme Doumerou qu'on annonçait en pré-retraite, dont on pensait qu'il avait l'essentiel de sa carrière derrière lui, tu vois. Et tous ces mecs-là, ils ont donné de la force et du caractère à Montpellier. Et ce caractère-là, cette équipe, elle en était dépourvue auparavant, quoi. L'identité, elle était totalement floue, quoi. C'est Languebox, c'est Sud-Africain, ça rime à rien, ça rime à rien. Et voilà, assis sur ce truc-là, je pense qu'ils peuvent continuer à surprendre l'année prochaine.
Je crois que c'est la grande force. C'est Yannick Bru qui disait ça de Philippe Saint-André. Yannick Bru qui a travaillé donc quand même 4 ans avec Philippe Saint-André à la tête de l'équipe de France. Il disait que la grande force de Philippe Saint-André, c'était de bien connaître les hommes, de bien savoir les articuler entre eux. Et je crois que c'est ce qu'il a réussi. C'est ce que dit Marco. Effectivement, il a été choisir des joueurs qui collaient parfaitement à l'identité qu'il avait envie d'impulser au sein de son équipe. Un garçon comme Geoffrey Doumerou, qui a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il aurait mérité, parce que c'est un garçon qui a très tôt été international lorsqu'il a éclos au sein de son club, qui est son club formateur, qui est Montpellier. Il est parti pour un différent avec Fabien Galthié. Il a été au Stade Français. Il a été champion de France au Stade Français. Il est parti du Stade Français à La Rochelle. Il a fait quand même de très belles saisons avec le Stade Rochelais, même s'il n'y a pas eu de bouclier de Brennus avec ce club-là. Et effectivement, certains avaient dit qu'il repartait finir tranquillement sa carrière à Montpellier. Et on voit que ce garçon qui est un caractère, un fichu caractère, hein, pour avoir eu des fois des mots avec lui, c'est un garçon voilà qui s'enlève pas, mais au moins il prend pas les matchs les uns après les autres, lui, et quand il a quelque chose à dire, il le dit, et c'est quelque part, c'est très appréciable. Et donc cette identité, je prends l'exemple de Doumerou, mais elle est vraie pour d'autres joueurs, agrémentée de quelques pépites qui sont allés chercher, un garçon comme Paolo Garbisi que personne ne connaissait, qui a signé probablement pour 2000 ou 3000 euros par mois parce qu'il avait un contrat espoir. Voilà, c'est là où Philippe Saint-André a réussi. Il s'appuie aussi sur un staff technique, Jean-Baptiste Lissal comme Olivier Azam, qui sont quand même deux mecs contre la bouteille, qui connaissent très très bien le rugby. Il a su capitaliser là-dessus. Et puis dernier point très important, on a longtemps coller une étiquette à ce club qui n'avait pas, entre guillemets, d'identité. On a continué cette saison. Or, cette saison, je crois que le MHR s'est construit une véritable identité. Alors oui, effectivement, tous les matchs n'ont pas été flamboyants, mais on avait vu naître quand même quelques mouvements intéressants durant la saison. Et on a l'impression que certains l'ont pris en pleine gueule sur cette finale avec ces 3 essais magnifiques. Mais non, ils ne se sont pas découverts joueurs et capables de jouer debout sur cette finale. Ça s'est construit tout au long de la saison, ces 3 essais magnifiques. Ça a été pensé, ça a été structuré et c'est pas le fruit du hasard.
Et je parlais de Bringue tout à l'heure. Je parlais de Bringue tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai que cette semaine a été marquée par les vidéos des joueurs. Ça aussi, ça contribue à changer l'image de cette équipe. Elle gagne quand même en sympathie.
Ah ben oui, le capital sympathie, c'est sûr que il progresse. Ça montre un peu le visage aussi de ces joueurs qui sont accessibles, qui sont sympas. qui sont plus tous sud-africains, parce qu'on a quand même cette image, n'en déplaise, c'est le président Altrade qui avait ces mots très justes et très durs aussi envers lui-même et le club par rapport au fait qu'il s'était trompé, qu'il a fallu redonner, reconstruire une identité, franciser l'équipe, avoir un groupe avant tout qui vit bien ensemble, qui a plaisir à vivre et à jouer ensemble, ce qui n'existait pas à Montpellier. Donc ça fait pas tout, mais quant à ça, ben tu as plus de chances d'aller au bout, et on le voit, hein, vu comment il le fait, on voit que c'est pas du fake et que ça existe vraiment. Mais c'est Guillaume Guirado qui disait que voilà, la saison passée, elle a été très dure, et je pense que c'est à ce moment-là que cette équipe est née, parce que dans les moments difficiles, ils sont restés soudés, ils ont travaillé dur, ils ont vraiment travaillé dur. Et ils ont récolté les fruits de leur travail déjà en fin de saison avec ce titre de challenge. Et puis derrière, ils ont quand même surfé là-dessus.
Et ce n'est pas fini, donc, puisque ça promet pour la suite. Puisque quand on regarde les joueurs qui vont arriver, il y a Louis Carbonel qui va arriver de Toulon, l'ouvreur. Il va y avoir la petite pépite de Pro D2, le demi de mêlée, Léo Colli. Ça promet quand même pour cette équipe, ouais, sportivement parlant, pour la saison prochaine.
Oui, mais dans quel état d'esprit va arriver Louis Carbonel, par exemple? De ce que je comprends, il quitte Toulon à contre-cœur. Est-ce que le MHR, c'est un choix par défaut? Est-ce qu'il vient au contraire là pour se relancer en équipe de France? En fait, c'est autant de questions auxquelles il va falloir qu'il réponde, Louis Carbonel, quoi, dans quelques mois.
Bah, après, moi, mon inquiétude, elle n'est pas tant sur le recrutement, parce qu'aujourd'hui, l'effectif du MHR, quand même, il a de la gueule. Aujourd'hui, quand Carbonel, Colli, il y a un pilier néo-zélandais aussi, des Blacks qui arrivent, mais je n'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais m'épargner les moqueries. Marco, peut-être qu'il est bilingue.
Non, je ne m'aventurerai pas là-dedans.
Bon, bref, non, mais l'effectif. Moi, ma seule inquiétude, et je crois qu'Imanol peut peut-être nous en dire un mot, mais c'est que les années post-titre, elles sont quand même. Relancer la machine n'est pas simple. On le voit bien, quand tous les mecs sont en vacances aujourd'hui, se reposent tranquillement en bord de plage, bon voilà, les Montpelliérains font encore la bringue jusqu'au week-end prochain probablement. Ils vont revenir à l'entraînement début août, donc très tardivement, avec un premier week-end de compétition dès le premier week-end de septembre. Ça veut dire une préparation, une pré-saison de l'ordre de 4 semaines. Ça, c'est pas simple, et ça, c'est une véritable interrogation. Enfin, je sais pas, Imanol a été champion. Il a fêté des titres. C'est compliqué de se remettre dans le bain et de retrouver, même si la dynamique, évidemment, elle y est naturellement, mais est-ce qu'elle se matérialise aussi facilement sur le terrain dès les premières journées?
Mais l'avantage, c'est que tu fais un vrai stage de cohésion, quoi. Un vrai de vrai. Et vu que le groupe va pas trop bouger, la seule interrogation, ça va être voilà, pour les nouveaux joueurs. La capacité à s'intégrer, parce que quand tu rentres comme ça dans un groupe qui vient de fêter en plus son titre pendant 3 semaines, ça peut être un peu difficile de trouver sa place. Mais non, je pense que voilà, ils vont surfer sur l'euphorie, et même si le début de saison peut être compliqué, après ce qu'ils ont vécu là, ça les aidera quand même fortement la saison prochaine et les saisons d'après.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Montpelliérains, donc cette saison de top 14 qui consacre un très très beau champion. Mais au-delà de ce titre, comme c'est la dernière, quand même, je voulais vous poser cette question. Si vous deviez retenir une chose de cette saison, messieurs, qu'aimeriez-vous mettre en avant? Tiens, on va commencer par Marc, tiens, au Japon. Voilà.
Bah, écoute, moi, le match que je garderai en mémoire, c'est ce France-Nouvelle-Zélande à l'automne. Parce que c'est un match magnifique, parce que ça fait 12 ans qu'on n'avait pas battu les Blacks, parce qu'on leur a mis 40 points, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Alors on a beau me dire que les Blacks sortaient de 3 mois de tournée, qu'ils étaient fatigués, qu'ils montreront un tout autre visage à la Coupe du Monde 2023, ben, enfin, c'est toujours bon à prendre, c'était magnifique, j'ai pris un pied incroyable ce soir-là, et merci les Bleus.
Arnaud.
Alors évidemment, je rejoins Marc, hein, mais moi c'est plus un coup de cœur humain, on vient de parler de Montpellier. Il y a un garçon qui a souffert durant sa carrière, c'est Guillaume Guirado, qui a été étiqueté capitaine de la Loose, capitaine de l'équipe de France. Il a été nommé à la sortie de la Coupe du Monde 2015 par Guy Noves. Il a fait un mandat de 4 ans. C'est le seul capitaine qui a connu 2 sélectionneurs différents, en tout cas au cours d'une session de 4 ans. Il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Et je vous cache pas que sur le plan humain, c'est un garçon que j'apprécie, et que quand j'ai vu que Montpellier allait être sacré champion de France, ça m'a fait quand même un grand, grand plaisir parce que avec tout ce qu'il a pris dans la gueule, il aurait pu sortir un certain nombre de dossiers pour se défendre. Il a jamais rien dit, pas une virgule de travers sur le 15 de France, quand bien même on a cherché, on dira pas les noms, mais à lui, à le destituer de son capitanat dans une manigance qui était pas très propre. Voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été dites à son égard, et je crois que la plus belle des réponses, il l'a pas faite dans la presse, il l'a pas faite à la radio, il l'a pas faite à la télévision, et, il l'a faite sur le terrain, parce que même encore cette saison, il a pas été épargné, il a été blessé, il a été absent plusieurs mois, il est revenu, il a été titulaire, bon, pas de bol. Il a quand même fini sur une commotion. On va dire quand même que, comme on dit dans le rugby, il n'est pas châté. Mais voilà, il part sur un titre de champion de France et je crois que c'est amplement mérité au regard de la qualité humaine et sportive de ce garçon.
Imanol,
bravo.
Pour conclure.
Ben, moi, c'est le grand chelem de l'équipe de France, voilà, parce que ça fait 12 ans qu'on attendait ça, qu'on a, on a vécu des moments durs. Moi, le premier, en étant le premier supporter de l'équipe de France, passé pratiquement, pas 10 ans, mais de longues années à plus me reconnaître dans cette équipe. Et sans parler même des résultats, de revoir en tout cas cette envie de jouer en équipe de France, de mouiller le maillot avec une solidarité retrouvée et en plus voilà, une génération talentueuse et qui joue très bien au rugby et de finir en plus en beauté en battant les Anglais et en tenant le match d'une main de maître. Voilà, il n'y avait rien à dire. Bravo, parce que c'était génial et c'est important parce que c'est l'équipe de France aujourd'hui qui fait rêver les petits qui seront les futurs joueurs de la grande équipe de France. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué et j'étais d'abord très heureux pour ce groupe qui vit très bien et pour les joueurs aussi qui constituent cette équipe parce qu'ils ont un bon état d'esprit, ils ont un bon discours et ça fait plaisir en tout cas de revoir l'équipe de France en haut du classement mondial.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir, messieurs.
C'était...
Ah, quoi?
Arlo me posait une question. J'ai trouvé la réponse. Quel était le nom du pilier droit All Black qui va jouer à Montpellier la saison prochaine? Il s'appelle Karl Tuinufuaki. Voilà.
Voilà pourquoi je n'ai pas donné son nom.
À tes souhaits, Marco.
Bon, c'est donc l'heure de se dire au revoir. Hein, les gars, on va dire au revoir. C'était la dernière de la saison. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous remercier une dernière fois, notamment toi, Imanol, notre légende. Merci d'avoir été là tout au long de cette
Merci,
saison
Olivier,
avec ton expertise.
Nous ne saurons rien sans toi.
Oui, bien sûr. Merci surtout aussi à Seb Petit, Adrien Yo et Simon Farbach qui ont géré ce podcast avec talent. Et puis, merci à nos indispensables journalistes du Middle. Marc Duzan, Arnaud Bardelet, Jérémy Fada qui a participé, Simon Valzer aussi, et Pierre Laurent Gou. Et puis, bah, comme c'est fini, nous aussi, comme les Montpelliérains, bah, c'est parti pour une semaine de bringue, hein, les gars.
Avec grand plaisir. Moi, je suis Imanol au contrebandier.
Je Allez, vous attends salut. Au contrebandier, Marco, Arnaud, Olivier. À bientôt pour une bière.
Salut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.